Nous allons dans l'évangile de Marc. Nous avons déjà commencé le 31 décembre. Qui est-ce qui était là le 31 décembre et qui a entendu la prédication? Il y en a quelques-uns. C'était un jour un peu particulier. Est-ce que quelqu'un se souvient avoir pris quelque chose qui ressemble à une bonne résolution? On a plutôt parlé de réajustement. Est-ce que quelqu'un y travaille encore? Ah, alléluia! Il y a des mains qui font comme ça. Oui, non, mais en fait, peut-être un petit peu, mais pas moins. On dit qu'il faut 21 jours pour changer d'habitude. Et ça, c'est quelque chose de physiologique, de comment est-ce qu'il faut dire? Enfin, voilà, c'est dans le cerveau, on a la plasticité du cerveau, c'est comment est-ce que le cerveau refait ses circuits, comment est-ce qu'il se régénère. Et il lui faut 21 jours, donc c'est vraiment physiologique, biologique, il lui faut 21 jours pour changer des habitudes. Mais dans la pratique, on se rend compte que si on n'entretient pas cette nouvelle habitude, chasse le naturel, il revient au galop. Et c'est pour ça que lorsqu'on prend une bonne résolution ou qu'on opère un réajustement, il faut tenir dans la durée. Et ce n'est pas forcément facile. Et c'est pour ça qu'il faut poser des actes. Il faut y travailler. Nous devons travailler à notre salut, nous devons travailler à notre vie de foi, nous devons travailler à notre suivance de Jésus. Nous sommes des disciples, ceux qui suivent le Seigneur, et nous devons y travailler. Se convertir et se reposer, ce n'est pas la vie chrétienne. Le salut, ce n'est pas ça. Le salut, c'est un moment de tous les instants. Alors, continuons dans l'évangile de Marc. Le 31 décembre, nous avons parlé de Jean-Baptiste. Nous étions au tout début, premier chapitre, nous allons rester dans le tout début et le premier chapitre. Vous allez vous dire, la pasteur, elle yoyote, elle se répète, c'est à peu près le même message qu'il y a 3 semaines. C'est vrai, ce sera à peu près le même message qu'il y a 3 semaines. Mais je ne yoyote pas. Marc, c'était pas un apôtre, mais c'était certainement le collaborateur et le secrétaire de l'apôtre Pierre. Certainement que le témoignage de Marc, c'est en fait celui de Pierre, que Marc a mis sur parchemin. Et le but de Marc, c'est de présenter Jésus comme, on l'a chanté tout à l'heure, comme le Fils de Dieu. En fait, tout l'évangile de Marc se concentre sur la filiation divine de Jésus. Cet homme qui est en train de fouler la terre, ce n'est pas seulement un homme, c'est la personne de Dieu. Et il commence son évangile par « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C'est le premier verset. En fait, il prend le contre-pied d'une citation romaine de l'époque. Une citation qui dit, à l'époque c'était César Auguste, l'empereur, et cette citation, elle a un relent de culte impérial, de culte de l'empereur. Et il était gravé quelque part le jour de la naissance du Dieu, c'est-à-dire César Auguste. Le jour de la naissance du Dieu marque pour le monde le commencement des bonnes nouvelles qu'il apportait. Et Marc prend le contre-pied et c'est comme s'il dit « La bonne nouvelle commence pour le monde avec Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Point. Barre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors allons un peu plus loin que la dernière fois. La dernière fois, nous avons vu la prédication de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous allons voir la prédication de Jésus. Nous sommes dans le premier chapitre, les versets 14 et 15. Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus commence à prêcher lorsque son précurseur ou prédécesseur, avec des guillemets, est arrêté. Jean, il est arrêté au propre et au figuré. Il a été mis en prison par Hérode. Si vous voulez les détails, vous pouvez les trouver dans le chapitre 6. Et en étant arrêté, mis en prison, son ministère s'arrête. Et c'est comme si Jésus prend le relais de Jean-Baptiste. En fait, l'arrestation de Jean-Baptiste, c'est le top départ pour le ministère de Jésus. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est comme si Jésus prend le relais de Jean-Baptiste, mais Jésus est bien plus qu'un prophète. Jésus est bien plus grand que Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jean-Baptiste lui-même l'a reconnu. Au chapitre 1, au verset 7, il dit « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. » Et Jean-Baptiste, il est tellement ému par la révélation qu'il reçoit qu'il dit « Je ne suis pas digne de délier en me baissant. Je ne suis même pas digne de m'agenouiller devant lui pour lasser ses lacets. » Je ne suis même pas digne de me prosterner devant lui pour... Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise ou je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus est bien plus grand que Jean-Baptiste. Alors, quel est le cœur du message de Jésus? Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Alors selon les traductions, il y a marqué bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle, c'est le même terme en grec, donc bonne nouvelle. Jésus alla dans la Galilée prêchant la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le cœur du message de Jésus, c'est la proximité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Alors, qu'est-ce que c'était le royaume de Dieu dans la conscience collective il y a un petit peu plus ou il y a 2000 ans? Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'était quelque chose de connu. Déjà dans les psaumes, il est dit que Dieu règne. Ce n'était pas quelque chose de virtuel, mais c'était quelque chose d'inaccessible. C'était le royaume de Dieu, c'était le royaume des cieux. C'était quelque part dans les lieux spirituels, quelque part dans le troisième ciel, quelque part dans un lieu inaccessible, sauf quand Dieu se révèle sur la terre. Et Jésus est en train de dire, cet endroit inaccessible s'est fait accessible. Le temps est accompli. Et quand il dit le temps est accompli, ce n'est pas le terme chronos dans le sens l'heure qu'il est ou la date d'aujourd'hui, mais c'est kairos, c'est un autre terme qui parle d'accomplissement. C'est comme une pierre posée, c'est pour dire, pour marquer, pour sceller un nouveau départ. Le temps est accompli, ça veut dire depuis maintenant, toutes choses seront nouvelles. Ça signifie que Dieu est sur le point de régner dans l'histoire d'une manière nouvelle et parfaite. Le temps est accompli. Alors comment est-ce que ce royaume de Dieu s'est-il approché? Eh bien, nous avons vu, Jean-Baptiste a dit lui-même que Jésus, donc celui qui venait après lui, est plus grand que lui. Alors, c'est intéressant de comparer un peu leurs deux prédications, elles se ressemblent tellement. Jean, c'est le messager, c'est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Jean, il annonce l'arrivée du Seigneur. Marc 1, à partir du verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et nous avons vu le 31 décembre que ce chemin, c'est le chemin du cœur. C'est le chemin de notre cœur pour recevoir le Seigneur. Jean prépare la venue du Seigneur. Et Jésus, le Seigneur, affirme, le temps est accompli et le royaume de Dieu est là parce que je suis là. Vous comprenez? Jésus, en venant sur terre, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu et il s'incarne. Il vient parmi les hommes. Jésus, c'est Dieu parmi les hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait en venant? Est-ce qu'il est venu tout seul? Non. Il est venu avec l'éthique du royaume. Il est venu avec le caractère du royaume. Il est venu avec la mentalité du royaume. Il est venu avec l'activité angélique. Il est venu avec la puissance du royaume. Il est venu avec les révélations du royaume. Jésus est venu avec tout l'environnement céleste, tout l'environnement de Dieu. Jésus est Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Physiquement, on ne pouvait pas voir ces choses-là. Mais le royaume de Dieu s'est approché. Et durant tout son ministère, Jésus va démontrer que le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est l'une des caractéristiques de l'évangile de Marc. Marc y relate très peu de discours. Pour lui, c'est des faits, des actions. Et si vous lisez les chapitres qui suivent, Jésus y guérit. Il guérit, il fait des miracles, il purifie des lépreux, il ouvre les yeux des aveugles, il chasse des démons. Et quand il prêche, Marc ne dit pas forcément de quoi il prêche, ou quand il enseigne dans les synagogues, il ne va pas forcément parler du contenu, mais il va dire « tout le monde était impressionné parce qu'il enseignait avec autorité ». L'autorité de l'Esprit de Dieu était avec lui. Il y a un autre aspect de leurs deux prédications. Alors que Jean donne la manière de préparer le cœur, de préparer le chemin du Seigneur dans nos cœurs, on peut le lire au verset 4. Jean parut baptisant dans le désert, prêchant quoi ? Le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et tout le pays de Judée, les environs de Jérusalem se rendent auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean, quand il prépare, il prêche la repentance. Jésus, lui, il reprend l'exhortation de Jean, mais il l'amplifie. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? Le royaume de Dieu s'est approché. Bien sûr. Ouvrez bien votre esprit. Seigneur, je te demande un esprit de révélation. Je te demande maintenant de venir convaincre les cœurs par ton esprit, que l'on puisse comprendre ta parole, que l'on puisse comprendre ta bonne nouvelle. Révèle-toi, Seigneur. Il y a trois passages dans le prophète Ésaïe qui utilisent ces termes « bonne nouvelle ». Je vais dans Ésaïe 40. Si vous avez vos Bibles, ça vaut la peine d'aller un petit peu mettre votre nez dedans. Si vous ne savez pas où est Ésaïe, vous ouvrez votre Bible au milieu. Toujours plus facile quand c'est une Bible en papier. Et puis vous allez un peu plus loin que le milieu. Et puis vous allez tomber sur Ésaïe. Ésaïe 40. Bonne nouvelle. Jésus a dit « Croyez en la bonne nouvelle ». Ésaïe 40, à partir du verset 9. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. » Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 52. Le verset 7. « qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne ». Ésaïe 61, les premiers versets, un passage tellement connu, un passage que Jésus s'est attribué, c'est surtout dans l'évangile de Luc que l'on peut lire ça. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez de quoi Jésus parle quand il dit « bonne nouvelle » Il parle de ce Dieu dont Ésaïe a prophétisé. Jésus est ce Dieu-là. Jean-Baptiste est le messager qui prépare le chemin du Seigneur. Jésus est bien plus grand que Jean-Baptiste. Il est le messager par excellence. Mais il est encore plus que le messager. Il est le message. Jésus est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est quoi? Il faut plutôt dire l'évangile, c'est qui? L'évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est sa personne et c'est son œuvre. Dans le mot évangile, dans le mot bonne nouvelle, il y a tout. Il y a la rétribution, il y a le pardon des péchés, il y a sa justice sur tous ceux qui s'opposent à Dieu, mais il y a sa paix, il y a le pardon, il y a la délivrance. Jésus est la bonne nouvelle. Alors quand il dit « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle », « Repentez-vous et croyez en moi. » Le Seigneur ne veut pas qu'on se convertisse et qu'on se repose sur nos lauriers. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Jésus veut que tu comprennes qui il est. Et parce que le royaume de Dieu s'est approché de toi, ça doit changer quelque chose. Ta vie doit vivre un retournement, mais un retournement qui dure. Et c'est un retournement qui va se traduire en plein de petits retournements, mais plein, pendant toute ta vie, jusque dans ta blanche vieillesse et jusqu'à ce que Jésus revienne. Sinon, ce n'est pas la vie chrétienne. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle. Ou selon les traductions, ayez foi en la bonne nouvelle. C'est le même terme. Et avoir foi, je trouve qu'en français, ça dit de manière beaucoup plus profonde ce que ça signifie. Il ne s'agit pas d'une croyance ou d'une connaissance. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La foi, c'est l'adhésion du cœur. C'est la confiance dans l'espérance. La foi en Dieu, c'est un repos de l'âme. On peut avoir foi en quelqu'un. Vous savez, quand je prépare une prédication, c'est un peu laborieux. J'ai un témoin à la maison. Des fois, je pense qu'il doit même hésiter à me demander comment ça se prépare parce qu'il connaît déjà un petit peu la réponse. c'est laborieux. J'ai pas le fil rouge. J'ai tout dans ma tête, mais j'arrive pas à le sortir. Enfin, bref, tout. Je vous épargne ce qui se passe à la maison. Mais comment est-ce que mon mari répond? Comme un homme. Ça va aller. Tu vas t'en sortir, ma chérie. Je sais, mais il faut bosser. Il me dit, le message qu'il me fait passer, c'est « j'ai foi en toi ». Quand il me dit « je sais que tu vas y arriver », c'est parce qu'il a foi en moi, parce qu'il me connaît. Il sait ce que j'investis, ou en tout cas une partie, il ne voit pas tout, mais il sait ce que j'investis pour préparer une prédication. Il sait que le Seigneur m'a appelé. Il connaît les circonstances du pourquoi je suis ici. Il ne me prend pas pour Dieu, je ne me prends pas pour Dieu. Je sais que j'ai beaucoup d'améliorations à apporter. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le message. Quand il me dit, ça va aller, le message c'est j'ai foi en toi, je sais. Je sais parce que profondément, je te connais et que j'ai une confiance tranquille que ça va aller. La foi en Dieu, c'est bien plus profond que ça. Parce que Dieu est Dieu, parce que Jésus est Dieu. Parce que Jésus, c'est celui qui peut répondre à nos besoins. C'est celui qui nous secourt dans la détresse. C'est celui qui nous révèle les choses de Dieu. La foi en Dieu, croyez. Quand Jésus dit, mais croyez en moi, c'est une foi de tous les instants, dans tout ce que tu vis, mais crois. La foi, ça doit être le moteur qui nous dit que la parole de Dieu est vraie et qu'elle est totalement digne de confiance. Et si elle est totalement digne de confiance et que j'ai foi, alors je vais l'appliquer à ma vie. Alors je vais m'y plonger, je vais m'en nourrir, elle va me transformer. J'ai une confiance tranquille que cette parole, elle me fait du bien. Parfois elle me corrige, donc c'est un bien qui fait un peu mal. Mais c'est pour mon bien. J'ai cette assurance-là. La foi en la bonne nouvelle, c'est la confiance. C'est la foi, c'est ce qui te rassure quand tu te repens, quand tu demandes pardon pour tes péchés au Seigneur. Ta foi, ta confiance tranquille, c'est que tu sais que le Seigneur est toujours prompt à pardonner. Que jamais il va te dire « Non, non, cette fois-ci, tu en as trop fait, je ne te veux plus. » Jamais. Jamais. Le Seigneur ne repousse jamais celui qui se repent. La foi, c'est cette confiance tranquille que tu peux dire au Seigneur, j'ai tout foiré. Mais je te demande pardon et je reçois ton pardon parce que je sais que tu m'as déjà pardonné. La foi, c'est une confiance tranquille dans un amour qui dépasse notre intelligence, une grâce qu'on a même de la peine à recevoir. Tellement on a besoin, entre guillemets, tellement on veut se faire justice soi-même. La foi, c'est que c'est le Seigneur, notre tout, notre raison de vivre. Et Jésus dit, repentez-vous et croyez, ayez foi en la bonne nouvelle, ayez foi en moi, dans votre quotidien, dans tout ce qui vous préoccupe. Mais juste avant de dire ayez foi, c'est là que vous allez dire, elle se répète, il dit, repentez-vous. La repentance, ça y est, on en remet une couche. Ah, mais est-ce que je n'ai pas assez confessé mes péchés? Il y a des églises où on ne prêche plus du tout la repentance. C'est devenu tabou. Mais pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons. Parce que on pense qu'on a déjà confessé nos péchés, c'est fait, il n'y a plus besoin. Et surtout, parce qu'on ne comprend pas le sens de la repentance. Alors il y a encore une autre chose, c'est qu'on n'aime pas être pris en faute. Donc si on doit confesser nos péchés, c'est qu'on s'est un peu loupé et puis qu'il va falloir le dire et corriger. Donc ça vient nous chercher dans nos erreurs et ça on n'aime pas. Mais la repentance, ce n'est pas ça. La repentance, c'est un retournement, c'est un changement. Bien sûr que ça commence par recevoir la conviction des péchés, de les confesser et ensuite de prendre une autre voie qui se détourne du péché. Bien sûr que c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Et pour comprendre ce qu'est la repentance, que nous demande le Seigneur quand il dit « repentez-vous » Il faut recommencer, il faut revenir à Genèse, premier chapitre, les premiers chapitres. Il faut comprendre que tout ce qui a été créé, chaque créature, tout ce qui a été créé pour être en communion avec Dieu. Si vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, en plein milieu, il y avait un arbre. Et c'était l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie faisait que Adam et Ève pouvaient se nourrir du fruit de cet arbre quand ils voulaient, quand ils en avaient besoin. En fait, ça signifie, ça illustre ou ça image que Adam et Ève, nos premiers parents, étaient toujours dans la présence de Dieu. Ils avaient la vie à disposition, donc ils ne devaient pas mourir. Et Dieu, tous les jours, en fin de journée, il allait se rencontrer de manière encore plus intime avec Adam et Ève. Mais de toute façon, ils étaient dans l'environnement de Dieu, dans un environnement parfait. Mais à un moment, ils ont voulu être leur propre Dieu. À un moment donné, ils n'ont plus voulu que leur subsistance vienne de Dieu. Ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir répondre eux-mêmes à leurs besoins. Ils ont voulu goûter de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, pour devenir comme Dieu et décider pour leur propre vie, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. À un moment donné, ils n'ont pas voulu reconnaître que Dieu leur veut du bien et que Dieu les connaît mieux qu'eux-mêmes, puisqu'ils sont créatures et qu'il est créateur. Ils se sont rebellés. C'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est une offense à Dieu. Le péché, c'est ce qui porte atteinte, si on pouvait porter atteinte à la sainteté de Dieu. Ça ne peut pas cohabiter. Alors Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et des chérubins avec l'épée flamboyante ont été mis devant les portes ou le portail du jardin d'Éden pour qu'on ne puisse plus y retourner. Et c'est hors de la présence de Dieu que l'humanité a évolué. Nous avons été conçus hors du jardin d'Éden, hors de la communion avec Dieu. Et ça veut dire que nous avons hérité, nous portant dans nos gènes, la déchéance, la dépravité totale, si on veut reprendre l'expression des réformateurs. Nous sommes dans une nature de péché. Le péché, c'est ce qui est en contradiction avec l'objectif de Dieu pour sa création. Le péché est ce qui nous fait obstacle à la communion avec Dieu. Mais le royaume des cieux s'est approché. Jésus est venu pour rétablir cette communion. La repentance, c'est le mouvement qui vise le rétablissement de la communion. On ne peut pas encore revenir dans le jardin d'Éden. Ce sera pour plus tard, quand Jésus reviendra, quand il établira son règne d'une manière accomplie. Dans le texte où nous sommes, c'est le moment kairos où les choses commencent de manière plus concrète. Il y a eu tout l'Ancien Testament pour préparer, et là c'est une nouvelle étape. Mais à un moment donné, ce temps-là, il sera totalement accompli quand le royaume de Dieu sera établi dans les cieux et sur la terre. Mais pour l'instant, nous devons nous repentir. Dans l'Ancien Testament, le terme de la repentance ou se repentir n'est pas tellement exprimé comme ça, mais il est exprimé par le fait de revenir. Revenir à Dieu, revenir à l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, la repentance, elle est autant prêchée par Jean-Baptiste, par Jésus, que par les apôtres après que Jésus soit retourné vers le Père. Donc c'est dire combien la repentance est au cœur de la foi chrétienne. Sans repentance, tu n'es pas chrétien. La repentance est un changement, un retournement. La repentance, mes amis, qu'est-ce que c'est ? C'est un changement de cœur. La repentance est un changement profond de mentalité qui implique un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de manière de vivre, un changement de manière d'être. Il y a un théologien du nom de Chomerowski qui exprime cette chose-là ainsi. Il dit « La repentance est un mouvement positif. » Positif dans le sens où ce n'est pas un mouvement qui te fait reculer, ce n'est pas un mouvement qui t'attire par le bas, c'est un mouvement qui te fait aller de l'avant. La repentance est un mouvement positif ayant Dieu pour direction. Si je veux aller vers le nord, on est où ? Nord 116. Plus du nord. Tiens, j'avais pas réalisé. Si je veux aller vers le nord, j'ai pas trop le sens d'orientation, mais ça doit être par là. Si je veux aller vers le nord et que je me taille au locle, je n'ai pas le nord comme direction. Avoir Dieu pour direction, c'est avoir la mentalité de Dieu. C'est faire les choses que Dieu cautionne. C'est apprendre à connaître son caractère pour que mon caractère, de plus en plus, ressemble à son caractère. Et vu que je n'y arrive pas seule, la repentance, c'est de comprendre que je suis dans une nature déchue, mais que le royaume des cieux s'est approché, que Jésus est la bonne nouvelle, et que si moi je ne peux pas m'en sortir seule et que je ne le pourrai jamais, la repentance est de reconnaître, Seigneur, je ne peux pas mériter mon salut, je ne peux pas mériter mon pardon, je ne peux pas faire quelque chose pour m'en sortir, mais toi, tu l'as déjà fait. Et je te remercie et j'accueille ton pardon, j'accueille ta restauration. Viens à mon secours. Il y a des grandes repentances quand on change de vie. Il y a des grandes repentances quand on s'est fourvoyé tellement longtemps et tout à coup, paf, la pièce de 4 sous, elle tombe. On dit, j'ai compris, Seigneur, pardon. Et on pose les Pâques, mais Seigneur, mais pardon, pardon. Ça, c'est, j'appellerais ça un gros moment de repentance. Et il y a des choses beaucoup plus subtiles. Par exemple, je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de vous culpabiliser?
Non.
Jamais, moi non plus, jamais. J'ai jamais un petit esprit de condamnation qui vient me dire « mais t'as nous fait faux ». Jamais. Combien de fois ça arrive? Et des fois, on peut se dire « mais combien de fois par jour je sens qu'il y a comme une condamnation qui me dit « mais t'as pas assez fait ci, t'as pas assez fait ça, tu l'as pas assez bien fait, ou t'aurais pu faire autrement, ou, etc. etc. » La repentance, plutôt que de se faire justice. Oui, mais c'est normal parce que, ou essayer de réparer par je ne sais pas quoi. La repentance, c'est de dire, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, là, je n'ai pas forcément fait juste. Ou Seigneur, mais c'est cette voix qui me dit ça, mais ça ne vient pas de toi. Seigneur, j'accueille ton pardon. Je refuse ces pensées de condamnation parce que je sais qu'elles ne viennent pas de toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est écrit là-dedans. Alors, la repentance, c'est de dire, mais j'arrête d'écouter ces choses-là. Parce que ça ne vient pas de Dieu. La repentance, c'est de dire, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que c'est vrai que ma nature est déchue, mais tu as déjà réglé le problème. Alors j'arrête de toujours ressasser les choses qui me tirent en bas, mais je vais dans ta direction. Je me repens, c'est-à-dire que j'accueille ta parole. J'ai foi en ta parole, je sais qu'elle est digne de confiance. Alors j'écoute ta parole qui me dit la vérité et je l'applique à ma vie. La repentance, ça doit être un style de vie. C'est le mouvement de ta vie, avoir Dieu comme direction, en sachant que Jésus est cette bonne nouvelle et qu'il est avec toi et qu'il est en toi par son esprit. Encore peut-être un petit exemple, j'écoutais dernièrement un prédicateur qui disait « Si tu es un véritable chrétien, tu ne t'habilles pas de manière sensuelle ». Waouh, ça peut s'adresser autant à des femmes qu'à des hommes, hein. Je fais ma parenthèse. C'est juste un exemple comme ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh bien, si on comprend cette notion de repentance, de foi en Dieu, c'est parce que si Dieu est ta direction, tu sais dans ta confiance, dans ta conscience, ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Tu sais dans ta conscience ce qui peut offenser Dieu ou pas. Tu sais dans ta conscience ce qui est bien pour toi devant Dieu ou pas. Lorsque tu dilapides ton corps, lorsque tu offres ton corps au premier, à la première venue, lorsque tu dilapides ta dignité, est-ce que tu as Dieu pour direction? Non. Lorsque tu te méprises toi-même, c'est que ce n'est pas Dieu ta direction. Mais peut-être simplement que tu ne le sais pas. Combien de personnes méprisent leur corps parce qu'on leur a fait du mal? Mais quand Dieu, quand Jésus intervient dans leur vie, c'est là qu'il peut restaurer, qu'il peut guérir, rendre la dignité et purifier la conscience et expliquer, donner ses convictions qui disent « mais tu es précieux, Tu as de la valeur à mes yeux. Alors, aie le Seigneur pour direction. Parce que je vais te porter, parce que je vais te restaurer, te guérir. Je vais te porter sur mes mains jusqu'à la fin de tes jours. La repentance, mes amis, c'est d'avoir foi. La foi et la repentance sont extrêmement liées. C'est pour ça que Jésus dit « Repentez-vous et ayez foi ». Ça va ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Tu te repens parce que tu as foi que Jésus intervient. Et que c'est lui qui te guérit, que c'est lui qui te donne la paix. C'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te restaure. La repentance, c'est se détourner de son péché, de son idolâtrie. Combien de fois nous sommes notre propre idole? C'est se retourner de sa rébellion en tant que créature et de se tourner vers Dieu dans la foi. On ne peut pas demeurer dans l'environnement de Dieu sans qu'il y ait un changement de cœur et de comportement. Jésus ne veut pas d'une religion chrétienne. Ça n'existe pas. Il ne veut pas ta connaissance des choses de Dieu. Ce que Jésus veut, c'est l'adhésion de ton cœur. C'est que tu sois engagé dans ta vie chrétienne. C'est que tu sois engagé dans ta marche à chaque instant. C'est comme si Jésus te dit « Engage-toi à me faire confiance. Accorde-moi une confiance tranquille et engagée qui se reflète dans tes attitudes, dans tes paroles, dans tes réactions, dans ta manière de gérer l'imprévu, de traverser l'épreuve, de répondre à une offense. Aligne ta volonté sur la mienne. Accueille-moi dans tout ce qui te concerne, ce qui te préoccupe, ce qui te met en mouvement. Gère avec moi tes conflits, abandonne tes idoles, suis-moi. Repends-toi et foi en moi. » Et à force de vivre ces choses-là avec le Seigneur, nous irons de gloire en gloire, de restauration en restauration, de joie en joie. Quand nous sommes pleinement dans la volonté de Dieu, c'est tellement bon. C'est tellement libérateur quand tout à coup tu te rends compte que ton cœur est toujours plus rempli du Seigneur, de la joie et de la paix du Seigneur. Tu croises quelqu'un en ville et paf, tu as une parole de bénédiction. Ça ne veut pas forcément dire, tu vas lui dire « Jésus t'aime ». Non, je ne parle pas de ça. Mais tu vas savoir comment l'accoster et lui faire un sourire et juste la rejoindre pour un petit moment d'éternité. Et tu vas pouvoir mieux réagir dans certaines situations. Et tout à coup, dans la prière, tu vas commencer à voir des choses et être beaucoup plus perspicace, plus efficace et plus puissant. Ça te change radicalement. Tu commences à établir une complicité avec ton Seigneur. Mais tu n'oublies pas qu'il est Dieu et pas toi. Et à force de vivre ces choses-là avec Dieu, tu es en train d'apprendre à le connaître. Tu te connais toi-même de plus en plus. Et tu es en train de connaître ton Dieu de plus en plus, l'intimité de plus en plus, jusqu'au retour du Seigneur. C'est le prophète Amos qui a dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et je crois que c'est la conclusion de ma prédication. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avec Dieu pour direction. Et la repentance et la foi comme style de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que son esprit vous donne les révélations dont vous avez besoin. Et que cette année 2024 soit l'année du bon changement. Du bon retournement, dans le nom de Jésus-Christ.